Chapitre 7. Le chapitre 7 des Actes vus sous la perspective de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Le chapitre 7 des Actes n'est pas simplement l'autodéfense d'Étienne, mais une déclaration récapitulative massive de l'histoire du salut, témoignant de la façon dont l'évangile de l'eau et de l'esprit pénètre à travers toute la Bible de l'Ancien Testament et s'accomplit. À travers ce sermon, Étienne révèle clairement que l'histoire d'Israël n'était pas une histoire de simple observance de la loi, mais l'histoire de la préparation du salut par Dieu pour mettre fin au péché de l'humanité. Actes chapitre 7, versets 1 à 8, Abraham, la promesse de Dieu a commencé avant le temple et la loi. Le souverain sacrificateur dit « Les choses sont-elles ainsi ?» Étienne répondit « Hommes, frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan. Et il lui dit, « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai. » Il sortit alors du pays des Chaldéens et s'établit à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit passer dans ce pays que vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune propriété en ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il promit de lui en donner la possession, et à sa postérité après lui, quoiqu'il n'eût point d'enfant. Dieu parla ainsi, « Sa postérité séjournera dans un pays étranger. On la réduira en servitude et on la maltraitera pendant 400 ans. Mais la nation à laquelle ils auront été asservis, c'est moi qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. » Puis Dieu donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi, Abraham, ayant engendré Isaac, le circoncit le 8e jour. Isaac engendra et circoncis Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Étienne ne commence pas par l'histoire du temple que les Juifs chérissent comme leur propre vie, mais remonte à l'appel d'Abraham. Il cite l'événement rapporté ainsi. « Le Dieu de gloire apparut à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il s'établît à Charan, et il lui dit « Quitte ton pays et ta famille, et va dans le pays que je te montrerai ». C'est proclamé que Dieu avait déjà commencé la promesse du salut avant même que le temple ou la loi n'existe. Le salut n'a pas commencé par des actes humains ou des bâtiments religieux, mais a commencé par la promesse de Dieu, et cette promesse a été parfaitement accomplie plus tard par le baptême et la croix de Jésus. Actes chapitre 7, versets 9 à 16, Joseph, la sagesse de Dieu sauvant des vies à travers celui qui a été abandonné. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Il survint une famine dans tout le pays d'Égypte et dans celui de Canaan. La détresse était grande et nos pères ne trouvaient pas de quoi se nourrir. Jacob apprit qu'il y avait du blé en Égypte et il y envoya nos pères une première fois. Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon sut de quelle famille il était. Puis Joseph envoya chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Et ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté, à prix d'argent, des fils des morts, pères de Sichem. Poursuivant, Étienne transmet l'histoire de Joseph, disant « Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte. Mais Dieu fut avec lui et le délivra de toutes ses tribulations. Il lui donna de la sagesse et lui fit trouver grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Le fait que Joseph ait été abandonné par ses frères et ait souffert dans un pays étranger, mais ait finalement sauvé toute la famille et de nombreuses vies, est un modèle parfait du Christ qui devait venir. Jésus a de même été abandonné par les Juifs et livré aux mains des gentils, mais par le baptême dans le fleuve Jourdain. Il a accepté le transfert des péchés de l'humanité et par le jugement de la croix, il est devenu le Seigneur de vie qui sauve toute l'humanité qui était sous le péché. Actes chapitre 7, versets 17 à 36, Moïse, le véritable sauveur rejeté par les humains mais établi par Dieu. Le temps approchait où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifices contre notre race, maltraita nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vécussent de pas. À cette époque naquit Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père, et, quand il eut été exposé, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et il était puissant en parole et en œuvre. Il avait 40 ans lorsqu'il lui vint dans le cœur de visiter ses frères, les fils d'Israël. Il en vit un qu'on outrageait, et prenant sa défense, il vengea celui qui était maltraité et frappa l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par sa main. Mais ils ne comprirent pas. Le jour suivant, il parut au milieu d'eux comme ils se battaient, et il les exhorta à la paix. « Homme, dit-il, vous êtes frères. Pourquoi vous maltraitez-vous l'un l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant « Qui t'a établi chef et juge sur nous ? Veux-tu me tuer, comme tu as tué hier, l'Égyptien ?» À cette parole, Moïse prit la fuite, et il alla séjourner dans le pays de Madian, où il engendra 2 fils. 40 ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la montagne de Sinaï, dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition. Et comme il s'approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Et Moïse, tout tremblant, n'osait regarder. Le Seigneur lui dit « Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu ses gémissements, et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, va, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse, qu'ils avaient renié, en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir d'Égypte, en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. Étienne explique longuement Moïse, le héros d'Israël, et leur rappelle le fait qu'il a été rejeté lorsqu'il a d'abord essayé de sauver ses frères. Il témoigne disant « Ce Moïse, qu'ils avaient renié, en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu envoya comme chef et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Cette question est la même question qui a été jetée à Jésus plus tard. Jésus a pris sur lui les péchés du monde par le baptême et a reçu le jugement sur la croix, mais Israël l'a rejeté. Étienne voyait avec perspicacité le fait que le véritable sauveur est toujours rejeté par le monde, non pas à cause des attentes religieuses humaines, mais à cause de la méthode pour mettre fin au péché. Actes chapitre 7, versets 37 à 43, la limite de la loi, l'illusion du zèle religieux qui ne peut donner la vie. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, étant avec l'ange qui lui parlait sur la montagne de Sinaï, et avec nos pères, reçut des oracles vivants pour nous les donner. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Et en ces jours-là, ils firent un veau, ils offrirent un sacrifice à l'idole et se réjouirent de l'œuvre de leurs mains. Alors Dieu se détourna et les livra au culte de l'armée du ciel. Selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes, « M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du Dieu renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, vous transporterai-je au-delà de Babylone. » La loi que Moïse a transmise était sainte, mais elle ne pouvait pas fondamentalement enlever le péché humain ou donner la vie. Étienne souligne que les ancêtres d'Israël ont refusé d'obéir à Moïse, l'ont repoussé, et ils tournèrent leur cœur vers l'Égypte en disant à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. » Ils ont fait un veau d'or et ont choisi une religion visible au lieu de Dieu. Ce n'est pas différent de l'apparence de ceux d'aujourd'hui qui, se détournant de l'évangile de l'eau et de l'esprit, reste dans une structure religieuse essayant de bâtir la justice humaine, c'est-à-dire une foi centrée sur la repentance répétitive et les actes. Actes chapitre 7, versets 44 à 50, la relativisation du temple, la réalité du salut de Dieu qui n'est pas confiné dans un bâtiment. Nos pères avaient au désert le tabernacle du témoignage, comme l'avait ordonné celui qui dit à Moïse de le faire d'après le modèle qu'il avait vu. Et nos pères, l'ayant reçu, l'introduisirent sous la conduite de Josué dans le pays qui était possédé par les nations que Dieu chassa devant eux. Et il y resta jusqu'au jour de David. David trouva grâce devant Dieu et demanda d'élever une demeure pour le Dieu de Jacob, et ce fut Salomon qui lui bâtit une maison. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète, « Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied ». Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait toutes ces choses? Étienne mentionne l'histoire depuis le tabernacle du témoignage dans le désert jusqu'au temple de Salomon et proclame « Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, comme dit le prophète. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Cela ne signifie pas que le temple lui-même est renié, mais implique que Jésus-Christ, la réalité vers laquelle le temple pointait, est venu. Le temple et les sacrifices étaient des ombres, et Christ, qui a pris sur lui les péchés par le baptême au fleuve Jourdain et a été jugé une fois pour toutes sur la croix, est l'accomplissement même de tous ces types. Actes, chapitre 7, versets 51 à 53, déclaration frontale, avertissement contre l'obstination religieuse résistant au Saint-Esprit. « Ô homme, ô cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Lequel des prophètes, vos pères, n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, que vous avez livré maintenant, et dont vous avez été les meurtriers, vous qui avez reçu la loi d'après des commandements d'ange, et qui ne l'avez point gardée. » Étienne réprimande fortement dans la conclusion du sermon. « Hommes au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. L'œuvre du Saint-Esprit à laquelle ils résistaient n'était pas une expérience mystique, mais la méthode de salut de Dieu qui met fin au péché une fois pour toutes. Israël, qui insistait pour établir sa propre justice par la loi et essayait de s'installer dans le système sacrificiel répétitif, s'est finalement tenu à la place de ceux qui s'opposent toujours au Saint-Esprit en rejetant le salut accompli. Actes, chapitre 7, versets 54 à 60, martyr et vision. La gloire de Christ qui a achevé le ministère du salut. En entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit et fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et il lapidait Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Lorsque la foule en colère a jeté des pierres, Étienne, rempli du Saint-Esprit, a levé les yeux vers le ciel et a regardé attentivement, voyant la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu et a crié « Voici, je vois les cieux ouverts ». Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ici, Jésus debout est l'apparence de lui accueillant son témoin, comme celui qui a déjà achevé le ministère du salut et triomphé. Même en mourant, Étienne a prié « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et ce n'était pas simplement un pardon moral, mais une confession évangélique que seul celui qui est convaincu que le prix de tous les péchés a déjà été payé par le baptême et la croix de Jésus pouvait faire. En conclusion, le chapitre 7 des Actes témoigne que l'histoire d'Israël est un récit non pas de la victoire de la loi, mais de l'échec complet des humains, et que Dieu a préparé l'évangile de l'eau et de l'esprit qui mettrait fin au péché une fois pour toutes dès le commencement. Le baptême et la croix de Jésus sont l'accomplissement et la conclusion de tout l'Ancien Testament. Étienne n'était pas un destructeur de la loi, mais le premier martyr de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui a témoigné de cet accomplissement vers lequel la loi pointait ardemment. Un sermon de Paul Sijong. La parole d'Acte, chapitre 7, versets 1 à 60, est le récit de la défense d'Étienne et de son martyr héroïque. Si nous lisons ce chapitre du point de vue de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous croyons et prêchons, cela converge non pas vers un simple résumé historique ou une autodéfense, mais vers la question essentielle de savoir comment Dieu a sauvé les pécheurs et pourquoi les gens ont rejeté ce salut à plusieurs reprises. Lorsque le souverain sacrificateur a demandé si ces choses étaient ainsi, Étienne, au lieu de se défendre, a commencé à prêcher la méthode de salut de Dieu qui pénètre à travers toute l'histoire d'Israël, en commençant par Abraham. Étienne leur a d'abord rappelé le fait que le Dieu de gloire est apparu à notre père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie, avant qu'il ne soit à Charan, et a souligné que le salut a commencé par la promesse et l'appel de Dieu avant l'institution du temple ou de la loi. Cela s'aligne sur le principe de l'évangile de l'eau et de l'esprit, qui montre que le salut n'est pas lié par des actes ou des formes humaines, mais est donné par la foi dans la méthode que Dieu a établie. De plus, à travers l'histoire de Joseph, qui a été abandonné par ses frères, mais est finalement devenu celui qui les a sauvés, il a révélé le modèle répété d'Israël rejetant le Sauveur que Dieu a envoyé et obtenant à nouveau le salut par lui et l'ombre du Christ à venir. Dans l'histoire suivante de Moïse, Étienne a clairement indiqué que Dieu qu'a envoyé Moïse, que les enfants d'Israël ont rejeté disant « Qui t'a établi chef et juge comme chef ?» et comme libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson en feu. Le salut de Dieu est sûrement accompli indépendamment de la reconnaissance humaine. C'est la même vérité que même si les gens rejettent le baptême et la croix de Jésus, Dieu a réellement enlevé le péché par ce ministère. Étienne a parcouru l'histoire du tabernacle dans le désert et du temple de Salomon et a déclaré que « le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme, réprimandant les Juifs pour être obsédés par le bâtiment et les sacrifices, qui sont des ombres, plutôt que par Christ, la réalité. » Au point culminant du sermon, Étienne les a réprimandés directement, disant « Hommes aux cou raides, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi, déclarant qu'ils sont devenus les traîtres et les meurtriers du juste. » Ce n'était pas simplement souligner le péché de meurtre, mais révéler l'incrédulité qui a rejeté la méthode de salut désignée par Dieu, c'est-à-dire l'évangile dans lequel Jésus a pris sur lui les péchés en étant baptisé au fleuve Jourdain et a reçu le jugement sur la croix. Puisque l'évangile de l'eau et de l'esprit brise l'orgueil humain, le cœur obstiné qui résiste au Saint-Esprit en vient à résister farouchement devant cet évangile. Lorsque les membres du Sanhédrin ont entendu ces choses, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grincèrent des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Même au moment de mourir par lapidation, il a prié « Seigneur Jésus, reçois mon esprit ». Puis il s'est mis à genoux et s'est écrié d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché ». Et après ces paroles, il s'endormit. Un tel pardon n'est pas une simple culture du caractère, mais le fruit de l'assurance et de la paix que seule une personne dont le problème du péché est déjà terminé par le ministère de Jésus-Christ peut posséder. En conclusion, le chapitre 7 des Actes nous demande si nous nous accrochons à des bâtiments et à des actes, ou si nous croyons au salut accompli que Dieu a réalisé. Dieu a donné des ombres à travers la promesse à Abraham, le type à Moïse, ainsi que le tabernacle et le temple, et a finalement enlevé nos péchés pour toujours, à travers la réalité du baptême et de la croix de Jésus-Christ. Étienne a prouvé cet évangile à travers l'histoire d'Israël et a scellé sa véracité de sa propre vie. Aujourd'hui, nous aussi devons choisir de devenir soit ceux qui rejettent cet évangile de l'eau et de l'esprit, soit ceux qui témoignent comme Étienne. Questions et réponses sur le chapitre 7 des Actes. Première. Que dit Dieu au sujet de la souffrance que ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu reçoivent pour avoir prêché cet évangile? La Bible ne parle pas de la souffrance reçue en prêchant cet évangile par ceux qui croient en l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu comme d'une malédiction ou d'un échec. Elle en parle plutôt comme d'une participation aux souffrances de Christ. Jésus a dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice » Matthieu, chapitre 5, verset 10, et a dit qu'être haï à cause de l'Évangile est un signe d'appartenance au royaume de Dieu. Par conséquent, la souffrance due à la prédication de l'Évangile n'est pas la preuve d'être abandonné, mais le signe de quelqu'un à qui une récompense a été promise dans le ciel. Les apôtres ont été battus et emprisonnés à cause de l'Évangile, mais ils ont considéré cela non pas comme une honte, mais comme une gloire. La Bible en parle en disant qu'ils ont été jugés dignes de subir des outrages pour son nom. En d'autres termes, Dieu ne calcule pas la souffrance due à l'Évangile comme une perte, mais la considère comme un privilège de participer au nom de Christ. De plus, l'apôtre Paul a exprimé la tribulation subie à cause de l'Évangile comme une légère affliction qui est pour un moment et a témoigné qu'elle ne peut être comparée à la gloire qui sera révélée à l'avenir. Ici, la souffrance n'est pas la colère de Dieu, mais un résultat naturel qui apparaît lorsque la valeur de l'Évangile entre en collision avec le monde. Le monde peut être tolérant envers les religions centrées sur les œuvres, mais il est inévitable qu'il ait des réactions divisées face à l'Évangile qui renie la justice humaine et ne proclame que la justice de Dieu. Ainsi, la souffrance reçue pour avoir prêché l'Évangile n'est pas due au fait que Dieu les a abandonnés, mais devient plutôt la preuve qu'ils prêchent clairement la vérité. La Bible dit qu'à travers une telle souffrance, il affine la foi et révèle la véracité de l'Évangile. Par conséquent, on peut dire que la souffrance reçue par celui qui croit en l'évangile de l'eau et de l'esprit à cause de cet évangile n'est pas le jugement de Dieu, mais une souffrance reconnue par Dieu et un passage vers la gloire qui apparaîtra à l'avenir. Deuxième. Que dit la Bible au sujet de ceux qui évitent d'être persécutés par les personnes religieuses tout en faisant l'œuvre de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit ? La Bible dit que rencontrer de l'opposition et des persécutions religieuses en prêchant l'Évangile n'est pas une chose étrange. Au contraire, elle déclare que ceux qui désirent de vivre pieusement souffriront la persécution. Par conséquent, la persécution en elle-même n'est pas une situation anormale, mais un résultat naturel qui apparaît lorsque l'Évangile entre en collision avec la structure religieuse du monde. Dans ce contexte, la Bible met clairement en garde contre l'attitude consistant à cacher ou à déformer l'Évangile par peur de la persécution. Jésus a dit « Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu, chapitre 10, verset 33. Cela ne fait pas référence à une simple erreur émotionnelle, mais pointe vers une attitude consistant à cacher intentionnellement la vérité à cause de la peur. De plus, les Galates disent que l'on ne peut pas avoir l'attitude d'essayer de plaire aux hommes et d'être un serviteur de Christ en même temps. Adoucir le message ou brouiller le point central pour éviter les critiques et le rejet des personnes religieuses, tout en prêchant, l'Évangile peut finalement devenir un acte consistant à choisir la reconnaissance humaine. La Bible considère une telle attitude comme une faiblesse de la foi et la signale parfois comme l'apparence d'avoir honte de la vérité. Cependant, en même temps, la Bible nous exhorte à rechercher l'assurance même au milieu de la peur plutôt que de condamner les faibles. L'apôtre Paul a confessé qu'il n'avait pas honte de l'Évangile, mais il est rapporté qu'il a également exercé son ministère avec beaucoup de crainte et de tremblement. Le problème n'est pas la réaction humaine en elle-même d'essayer d'éviter la persécution, mais le choix d'abandonner ou de déformer l'Évangile. Jésus a mentionné ceux qui trébuchent à cause de la parole lorsque survient la tribulation ou la persécution dans la parabole du semeur. C'est une scène expliquant une foi qui n'a pas de racines profondes. Si l'Évangile ne devient pas le centre de la vie, on peut facilement être ébranlé face à la pression extérieure. Par conséquent, la Bible met en garde contre l'attitude consistant à éviter la persécution, tout en nous exhortant simultanément à affermir notre foi. Compromettre la vérité à cause de la peur peut être un sujet de réprimande, mais celui qui retourne à l'Évangile et recherche l'assurance même au milieu de la peur est un sujet de restauration. En fin de compte, l'accent de la Bible n'est pas mis sur la condamnation, mais sur le discernement. Des conflits peuvent de suivre sur le chemin de la prédication de l'Évangile, et à ce moment-là, le fait de choisir la reconnaissance humaine ou de s'accrocher à la vérité de Dieu révèle la direction de la foi. Troisième. Dieu veut-il utiliser ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit comme ouvriers de Dieu? En regardant le flux global de la Bible, Dieu ne veut pas que les sauvés restent simplement dans une conviction personnelle, mais veut les utiliser comme des canaux pour révéler ce salut. Dieu fait d'abord naître une personne de nouveau, puis travaille à travers elle. L'ordre est toujours la grâce d'abord et la mission ensuite. Naître de nouveau n'est pas une détermination humaine, mais l'œuvre de Dieu. Celui qui a reçu la rémission des péchés en croyant en l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est plus un être sous la condamnation, mais devient un enfant de Dieu. Et celui qui est devenu un enfant participe naturellement à la volonté du Père. La Bible s'y réfère comme une race élue, un sacerdoce royal. C'est un statut qui inclut à la fois un privilège et une mission en même temps. Dieu ne cherche pas et n'utilise pas des personnes parfaites, mais utilise des personnes qui ont reçu la grâce. En regardant les apôtres, ils n'ont pas été appelés parce que leur apprentissage ou leurs antécédents étaient exceptionnels, mais ont été utilisés parce qu'ils ont expérimenté le salut de Jésus-Christ. Ils ont d'abord cru à l'Évangile, et lorsque cet Évangile est devenu une conviction, ils sont devenus des témoins. Par conséquent, être un ouvrier de Dieu n'est pas une position que l'on devient en se portant volontaire, mais un appel qui commence naturellement chez celui qui connaît l'Évangile. De plus, dire que Dieu les utilise comme ouvriers ne signifie pas que tout le monde devient la même forme de ministre. Certains enseignent la parole, certains servent, et certains prient et aident dans des endroits invisibles. Ce qui est important n'est pas la taille de la position, mais si le centre se tient sur l'Évangile. Dieu fait en sorte que cet Évangile soit prêché à la personne suivante par l'intermédiaire de celui qui connaît clairement et est convaincu du contenu de l'Évangile. Cependant, cette mission n'est pas un fardeau ou une coercition, mais un résultat de la grâce. Ce n'est pas une charge portée par la force, mais un canal par lequel le salut déjà reçu s'écoule comme une action de grâce. Si le ministère devient un outil pour établir sa propre justice, il va à l'encontre de l'esprit de l'Évangile. L'ouvrier que Dieu désire n'est pas une personne qui révèle son propre zèle, mais une personne qui témoigne de la justice de Dieu. En conclusion, Dieu veut utiliser ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Cependant, cette utilisation n'est pas une récompense pour le mérite, mais la méthode de Dieu pour étendre la grâce à travers ceux qui ont reçu la grâce. Le salut vient en premier et la mission vient ensuite. Et dans ce centre, la justice de Dieu et l'Évangile sont toujours situés. Quatrième, que dit le Seigneur au sujet de ceux qui sont nés de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais qui ne font pas l'œuvre de prêcher cet Évangile sur cette terre et suivent leur propre désir charnel? La Bible parle clairement de la façon dont une personne née de nouveau doit vivre sur cette terre. Le salut est reçu par la grâce, mais cette grâce doit apparaître comme une puissance qui change la direction de la vie. Si quelqu'un dit qu'il est né de nouveau en croyant en l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, mais continue à vivre en ne suivant que les désirs de la chair, la Bible traite cet état très sévèrement. Jésus a dit « Suis-moi ». Suivre ne signifie pas seulement une confession des lèvres, mais un changement dans la direction de la vie. De plus, il a dit que si quelqu'un veut venir après lui, qu'il renonce à lui-même. Le renoncement à soi-même n'est pas une condition pour obtenir le salut, mais l'attitude de vie d'une personne sauvée. Si une personne place toujours ses propres désirs au centre et se détourne de la mission de l'Évangile, elle reste dans un état où elle aime sa propre volonté plus que la volonté du Seigneur. L'apôtre Paul a fait la distinction entre ceux qui suivent de la chair et ceux qui suivent de l'esprit. Il a averti qu'une vie suivant la chair est un chemin pour devenir un ennemi de Dieu. Ce n'est pas une simple formule selon laquelle le salut est annulé immédiatement, mais une parole demandant vers où se dirige la direction. Si l'on est une personne née de nouveau, on doit avancer vers une vie qui révèle l'Évangile en suivant la direction du Saint-Esprit. Si l'on continue à suivre les convoitises de la chair et la cupidité du monde, la Bible le décrit comme un état de sommeil spirituel ou un état d'avoir perdu le premier amour. De plus, dans la parabole des talents, Jésus a réprimandé le serviteur qui a enfoui ce qui lui avait été confié dans le sol. L'attitude consistant à avoir reçu les biens du maître et à ne rien faire a été évaluée comme de la paresse. Cela ne signifie pas que tous les saints doivent faire la même forme de ministère, mais c'est un avertissement contre l'attitude consistant à ignorer la grâce reçue et à ne rester que dans l'autosatisfaction. Cependant, en même temps, la Bible présente un moyen de restauration de la foi. Le Seigneur veut que celui qui trébuche revienne plutôt que de l'abandonner complètement. Il y a une réprimande pour celui qui a suivi la chair, mais s'il se repent et retourne à nouveau au centre de l'Évangile, il y a une restauration. Dieu ne cherche pas une personne parfaite, mais se réjouit de celui qui tourne son cœur et suit à nouveau la volonté du Seigneur. En fin de compte, le cœur est le suivant. La direction de la vie d'une personne née de nouveau doit être vers l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Il peut y avoir une faiblesse temporaire, mais si l'on suit continuellement uniquement la chair, la Bible traite cela avec des mots d'avertissement. Le Seigneur a sauvé par la grâce, et il veut que cette grâce ne soit pas vaine. Ainsi, lorsqu'une personne née de nouveau reste dans une vie où elle se détourne de l'Évangile et ne suit que ses propres désirs, la Bible l'éveille avec un avertissement d'amour.